Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France. Studio où je suis ravi d'accueillir notamment des secondes littéraires et sociétés et des premières littéraires de l'excellent lycée du Vimeux en Baie-de-Somme pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les oiseaux verts de la critique Armelle Héliot du Figaro, Fabienne Pascaud de Télérama, Jacques Nerson de l'Obs et Gilles Costaz de Politis, émission où il sera notamment question d'un oiseau vert, de Racine, mes versions d'Uras, de Radio Libre, de Podalides et de Jean-Luc Lagarce. Dans le courrier de la semaine à propos de l'éveil du printemps, Armelita de Védekine montée aux Français, Marthe est furieuse, ça y est, vous avez réussi, j'abandonne. Je fais partie des idiots qui ne connaissent pas l'éveil du printemps, je déteste que certains d'entre vous se permettent de raconter la fin d'une pièce. Vous ouvrez des cadeaux qui ne vous sont pas destinés et vous les détruisez. Je vais donc me passer de vos critiques et de votre condescendance, même colère de Julien Roumi, qui juge Carmel l'a qualifié à l'antenne d'idiot, parce que, dit-il, je ne connaissais pas la fin de l'éveil du printemps et que je ne souhaitais pas m'en voir révéler l'intrigue par avance.
Qui ai-je traité d'idiot ?
Un printemps jugé hivernal, c'est pas fini.
Peut-être
hein.
Moi-même,
mais c'est pas fini.
Mais certainement.
Hein. Un printemps hivernal pour Philippe Chavernac. La pièce de Védekine mériterait des coupures tant les monologues sont longs. Une mise en scène catastrophique de Monsieur Hervieux-Léger, plate, grise, sombre. L'éveil du printemps, c'est l'éveil de la sensualité. Ça doit être joyeux. Et on assiste à des dialogues de normaliens boutonneux qui ne savent que se masturber dans leurs culottes. C'est vraiment raté. Dominique Thierry de Rouen a pour sa part été choqué par les propos de Madame Héliot à propos de la pièce Vera. Comment peut-elle se permettre de dire qu'elle se méfie, du verbe se méfier, des réactions d'auditeurs qui la contredisent. Et à propos de Vera, je ne veux pas entendre dire que c'est une mauvaise pièce et que Karine Viard est une mauvaise actrice.
Ben oui, moi je ne comprenais pas ce jour-là qu'on puisse s'attaquer à Karine Viard. J'ai admis, et je l'admets encore ce soir, malheureusement Fabienne n'était pas là ce jour-là, mais nous avons vu cette pièce aux Abbesses, puis elle a été transportée dans le Grand Théâtre de Paris, ça n'est ni le même public, ni le même espace, je veux bien admettre que des choses ne passaient pas, mais Karine Viard, on la connaît depuis assez longtemps, et je l'ai applaudie dans cette pièce, et je sais qu'elle est excellente, voilà. Je vois pas qui j'ai pu traiter d'idiot, et puis faut pas exagérer, j'ai pas non plus raconté la fin de l'éveil du printemps.
Il n'y a rien de grave, hein. Contrairement à vous, Gilles Candeau a aimé Les Inséparables à Héberto. Cette pièce m'a fait passer un très bon moment de théâtre. Les relations dans le couple, la relation père-enfant au travers des époques sont bien interrogées par la mise en scène et le jeu des acteurs. Je souhaite défendre cette pièce qui vaut plus que les opinions de vos critiques. Marc Rutherford, qui habite Brunois, quelle ne fut pas mon appréhension quand vous avez abordé la critique de Deux mensonges et une vérité de Poire et Fils au théâtre Rive Gauche, je craignais que, comme Fabienne Pascaud dans Télérama, vous en disiez du bien et qu'il s'agissait d'un bon boulevard. Vous l'avez pas vu ?
Non.
Bah alors, vous voyez, que nenni, c'était pire que ce que vous avez pu en dire. Spectacle lourd, vulgaire, grossier, affligeant de perdre son temps et son argent devant une telle escroquerie. Enfin, je voudrais, malheureusement je ne peux pas vous faire entendre, mais je voudrais féliciter Philippe Coquart, qui est prof de français au lycée Auguste Blanqui, à Saint-Ouen, dans le 93, qui a emmené ses élèves assister à un enregistrement du Masque et la Plume et leur a proposé de faire eux aussi un Masque et la Plume, intitulé soit la strophe des plumés, soit la plume démasquée, où ces lycéens débattent de 8 spectacles, dont tous les oiseaux de Mouawad à la colline et le traitement de Martin Krimp aux abbesses. Et j'ai écouté vraiment l'intégralité de leur débat, c'est formidable. Donc bravo à eux, bravo à leurs profs. Et bravo aussi à cette idée qui est la transposition du masque au lycée. J'espère que vous allez le faire bientôt au lycée du Vimeux. Je rappelle que c'est en baie de Somme, ce que tout le monde savait. Allez, on commence avec le triomphe de l'amour de Marivaux que Denis Podalydès, actuellement à l'affiche du film d'ailleurs de Christophe Honoré, va monter au Bouffe du Nord du 15 juin au 13 juillet, avec la même équipe d'ailleurs que pour les Fourberies de Scapin, qu'il avait mise en scène aux Français, dont Christian Lacroix au costume, Christophe Coin à la direction musicale, Éric Ruff, son patron du Français, à la scénographie, et c'est avec Jean-Noël Broutet, Edwige Belli, Philippe Duclos, Stéphane Excoffier, Leslie Menut, Dominique Parent, Thibaut Vincent. Je ne l'ai pas vu, mais vous l'avez vu, ce spectacle, en avant-première, à la Maison de la Culture d'Amiens. Et donc, vous allez pouvoir en parler ce soir, Fabienne ?
C'est une pièce étrange, Le Triomphe de l'Amour, pas si souvent montée que ça. Hein. Les grands s'y sont collés, Villard, Vitesse. C'est une pièce qui date du premier tiers de la carrière de Marivaux. Il a déjà écrit certains de ses chefs-d'œuvre. Mais c'est une pièce étrange parce que c'est vraiment un carnage. Un carnage, une jeune femme vient pour renouer, c'est une princesse qui veut renouer avec le vrai prétendant au trône, lequel prétendant au trône vit auprès d'un philosophe qui a renoncé à l'amour et avec sa sœur du philosophe qui a elle aussi renoncé à l'amour. Et finalement, pour accomplir son destin politique, eh bien, elle va rendre les trois personnages éperdument amoureux d'elle et elle va les abandonner à la fin du spectacle. Donc les hommes...
Pas tous.
Ah, ça se termine mal dans la mise en scène de Podalydès.
Si vous recommencez à raconter les fins...
Non.
Moi, j'arrête le métier. Hein.
Bon, je ne suis pas sûre que ça se termine bien.
Ça se termine mal pour Hermocrate et sa sœur, mais pas pour...
Je ne suis pas sûre que même pour elle, ça se termine bien.
Bon, ce qui m'importe, c'est de savoir si ça vous a plu.
Alors, ça, soyons honnêtes, soyons franches, on a vu le spectacle, la première représentation à Amiens, j'ai trouvé que les comédiens étaient un peu verts. J'ai trouvé notamment que le personnage féminin n'était pas la meilleure qu'on puisse rêver pour le rôle. J'ai beaucoup aimé Philippe Duclos dans le rôle du philosophe. Les décors d'Éric Ruff, éternel complice de Podalydès, on les connaît, c'est toujours, comme le disait Armel, qui était à côté de moi, dans le spectacle, à base d'herbes sèches, depuis qu'il a monté Pergunte et le petit maître corrigé, donc il se renouvelle pas assez, Éric Ruff. Il travaille peut-être pas assez, il est administrateur et devrait
bon,
peut-être...
Bon, est-ce que vous avez aimé ou pas ?
Moyen.
Bon, Jacques.
Je tire un peu la même chose, mais j'avoue que je redoutais un peu la mise en musique. Je ne voyais pas tellement ce que la musique pouvait apporter à Marivaux. Et en fait, sur ce plan-là, je me suis trompé. L'accompagnement musical est absolument parfait. Ça ne ralentit pas le spectacle. Alors, j'ai une grosse réserve concernant le décor. Non pas qu'il soit vilain, c'est plutôt joli, ces herbes. Mais il y a au milieu du plateau ce qu'on peut appeler une sorte d'abri de jardin et qui pivote sur lui-même. Or, ça ne sert à rien, et ça occupe l'essentiel du plateau. Et là, ça m'a étonné qu'Éric Ruff maintienne un dispositif inutile, c'est pas son genre. Je comprends pas. Par ailleurs, la pièce est magnifique.
C'est philosophe.
Oui, mais enfin, non, c'est pas là qu'il vit, visiblement. C'est une cabane de jardin. C'est pas l'endroit.
Bon, attendez, on va pas passer la soirée sur la cabane de jardin. Je vous demande ce que vous pensez d'un spectacle.
Eh bien, c'est un spectacle. C'est une pièce merveilleuse. Et le spectacle est plutôt agréable. C'est pas aussi réussi que Scapin, c'est sûr, mais c'est une pièce un peu complexe aussi.
Pour l'instant, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Armel.
Mes camarades ont dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'on l'a vu le premier jour, et c'est vrai que je pense que même entre le début de la représentation et la fin de la représentation, on sentait que le trac était un peu parti, qu'ils se sentaient mieux dans leur beau costume de Christian Lacroix. Mais c'est vrai que c'est une pièce très difficile parce que elle est très très cruelle, comme l'a très bien expliqué Fabienne. Elle est violente, elle est très violente. Il n'y a pas beaucoup de moments de franche gaieté.
Elle est méchante même.
Ouais. Il y a les moments où ce sont les serviteurs qui sont savoureux, qui s'amusent, qui peuvent faire sourire ou rire. J'ai pensé que le décor...
Oui, mais je vous interromps, mais Podalides, lui, pense qu'elle elle est tout à fait innocente, celle qui cause ces ravages, et que c'est un ange.
Oui,
c'est ce qu'il dit, c'est un ange. Son... Ça m'a un peu étonné parce qu'effectivement, c'est cruel.
Je pense qu'il a la pièce à Racine, quand même. Donc
je
c'est
pense
pas
qu'il n'a pas raison. Et alors moi, en découvrant le décor, c'est vrai étrange, puisqu'on les voit circuler sur des petites barques plates... des fausses barques plates, mais enfin... Et donc, j'ai pensé qu'ils s'étaient inspirés, comme c'était créé à Amiens, qu'ils avaient refait un peu les ortillonnages de la région Picarde. C'est un petit clin d'œil comme ça. Et d'ailleurs, les serviteurs ont l'accent un petit peu, ils ont un petit accent picard. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'au Bouffe du Nord, au printemps...
Picard, excusez-moi, mais c'était pas vraiment l'accent picard, je crois pas.
Un petit peu. Au printemps des comédiens, puis, où il s'est d'abord présenté à Montpellier, puis au Bouffe du Nord, je pense que ce spectacle va trouver sa respiration. C'est quand même du
beau
travail.
On a beaucoup de spectacles à voir ce soir. Je voudrais que Gilles nous dise ce qu'il en pense de ce triomphe de l'amour.
Jérôme, je suis désolé, je vais parler de la cabane, parce que elle est très gênante. Non, cette cabane, parce que c'est pas qu'il faille l'enlever nécessairement, mais c'est parce que ça banalise, on croirait un peu chez Jardiland, quoi.
J'ai de plus en plus envie d'y aller.
Donc, on préférait un jardin et un palais. Enfin, il y a quelque chose qui va pas de ce point de vue-là. Non, enfin, c'est une pièce quasiment impossible à jouer si on n'a pas une personne qui joue cette personne appelée Faucion. Parce que non seulement elle séduit trois personnes, mais elle les séduit en se font passer pour un homme. Elle est une femme, mais aussi en passant pour une femme. De temps en temps, elle dévoile son identité. Donc, c'est extrêmement difficile. C'est rarement réussi, le triomphe de l'amour. Et là, je trouve que dans l'état actuel du spectacle, Podalides gère bien les accidents, les événements, les épisodes, mais il n'est pas encore dans la profondeur de la pièce.
Cela dit, je me demande quand il a le temps de mettre en scène du Marivaux. Pour l'instant, il n'y a pas un seul film français où il n'ait au moins un rôle ou un petit rôle. Bref, entre deux tournages, donc il a mis en scène le triomphe de l'amour et c'est au Bouffe du Nord du 15 juin au 13 juillet. Bérénice, où ce qu'il en reste, la tragédie de Racine en 5 actes et en 1506 alexandrins, j'ai regardé, a été représentée pour la première fois le 21 novembre 1670 à l'hôtel de Bourgogne avec Marie Champmélé dans le rôle titre et en présence de Monseigneur Nerson. L'histoire, je la rappelle au bachelier, Titus, empereur de Rome, aime la reine Bérénice de Palestine et en est aimé. Antiochus, le meilleur ami de Titus, aime Bérénice et décide de lui déclarer sa flamme. Or, selon les lois romaines, Titus ne peut épouser une reine étrangère. Il charge alors Antiochus de signifier à Bérénice qu'il sacrifie son amour à son ambition. Et c'est aux ateliers Berthier, jusqu'au 10 juin, que Célipote, qui dit avoir redécouvert Bérénice grâce à Marguerite Duras, ça reste pour moi un mystère, montre la tragédie de Racine dans des costumes presque d'aujourd'hui et avec des extraits d'un court-métrage que je ne connaissais pas de Duras, sur les Tuileries, qui m'évoque toujours le mot des proches. Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a aussi filmé. Et c'est avec Mélodie Richard, qui fut Nina dans La Mouette d'Ostermeyer, dans le rôle-titre, Clément Bresson en Titus, mais aussi Marie Fortuit, Mounir Margoum, Machad de Mokberry et Hakim Romatif. Je n'ai rien compris à l'idée de Célipote, mais vous allez peut-être me l'expliquer, Armelle.
Non, je crois que, hélas, il n'y a rien à comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que cette jeune femme dont on a vu de bons spectacles, qui dirige un centre dramatique, qui n'est pas une gamine, ne fasse pas confiance à Jean Racine et à Bérénice. C'est la première chose incompréhensible pour un spectateur curieux et aimant Bérénice. On en a vu des dizaines de Bérénice depuis qu'on va au théâtre. Rarement j'ai été à ce point, mais blessée, parce que c'est vraiment injurieux. Je veux dire, ce film, ce pauvre petit film de Marguerite Duras.
Surtout, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il fait là.
Parce que comme il s'appelle Césarée, elle s'interroge sur le destin. On y a déjà eu droit cet été, lorsque Mademoiselle Adjani lisait des textes courts de Marguerite Duras, et ce film. Voilà, ça fait, il est à la mode tout d'un coup, une petite chute du travail de Marguerite Duras. Et puis, mais il n'y a pas que Marguerite Duras. Il y a les langues étrangères, car Bérénice étant une princesse étrangère, il faut qu'elle parle dans sa langue maternelle. Et tout d'un coup, on a des flots comme ça dont on est privé puisqu'on peut pas les comprendre. Ils sont même pas traduits. Et puis, il y a aussi un poème de Baudelaire, parce qu'évidemment, comme les hommes ont du vague à l'âme dans Bérénice, eh ben, quand ils sont trop tristes, ils se récitent du Baudelaire. Non, mais franchement, et puis il n'y a personne à sauver, parce que Mélodie Richard, c'est une bonne comédienne, elle est jolie comme un cœur, elle est fine, elle est longue, elle a une très jolie robe, elle est élégante, mais elle a une voix qui reste coincée dans sa gorge, un tout petit filet de joie.
Elles sont souvent dans la gorge.
Ben non, une tragédie, ça vient d'ici ou même de plus bas. Je veux dire, une tragédie, il faut du souffle et du coffre. Ben oui, quand même. On parle avec le ventre, normalement, une tragédie, quand c'est une aussi sublime tragédie. Là, c'est vraiment un massacre.
Fabienne ?
Oui, je suis peut-être pas aussi dure qu'Armel, parce que moi, ce qui m'a sidérée, c'est que je me suis ennuyée pendant tout le spectacle, mais que la salle qui était remplie d'adolescents et de jeunes qui découvraient peut-être la pièce était bouche bée, et ils ont applaudi à plein bras, quoi. Alors, c'est vrai que les critiques qu'on est sont toujours un peu décontenancées quand on voit qu'il y a une telle différence entre nous et le public.
Mais enfin, on est capable de dire que Duras n'a rien à faire avec Bérénice.
Si, ils ont applaudi à tout rompre. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans le spectacle, c'est d'abord, je trouve l'interprétation très limite, mais c'est qu'elle a peur du vide, Célipote. Et justement, c'est une pièce qui est magnifique parce qu'il ne s'y passe rien. Rien qu'un chagrin d'amour, rien qu'une rupture difficile, douloureuse. Et elle s'est pas jouer avec ce rien, donc elle a des gadgets, elle a des accessoires, elle a ses voix, ses poèmes, mais elle ne prend pas ce vide de l'absence de l'être aimé à bras-le-corps, et ça c'est un signe d'impuissance. Ce qui a peut-être beau dans le rapprochement avec Duras, c'est que c'est une héroïne totalement sacrifiée, comme le sont les femmes de Duras la plupart du temps. Elle est quand même juive, Bérénice, elle court après un type qui a détruit le temple des juifs, elle a abandonné pour lui sa religion,
pour vous,
toute sa famille. Elle est sacrifiée, elle a tout perdu.
Non, mais Célipote a expliqué que ce qu'il avait décidé à s'emparer de ce film, c'est une phrase dans laquelle Marguerite Duras dit que le sable était mêlé de la poussière de marbre, etc. Enfin bon,
c'est idiot. Mais il n'y a pas que ça qui soit idiot. Les héroïnes de Duras, ça peut toujours être intéressant.
Oui. Jacques.
Enfin, c'est pas très bien joué.
Simplement, Célipote s'est certainement dit, il y a eu effectivement beaucoup de Bérénice avant moi. Je peux faire quelque chose pour me distinguer, pour qu'on me remarque. Et alors donc, elle a eu cette idée de s'emparer de ce petit film grotesque de Marguerite Duras.
Ah oui, grotesque.
Totalement grotesque. Le ton de Duras est ridicule. Et puis alors, bon, à part ça, elle a un manque d'idées et un manque d'émotion. Ouais. Un manque d'émotion extraordinaire dans ce spectacle. Quand on se souvient de la Bérénice de Planchon.
Exactement. Mais Francine Berger.
Il y a aussi une autre idée tout à fait stupide. C'est qu'il y a le plateau est recouvert de sable. Donc il y a un canapé assez vilain, d'ailleurs un canapé moderne, planté dans le sable. Et le pauvre Antiochus, quand il s'assied, du coup, comme il y a beaucoup de sable, il a les genoux au bord du menton, il est très mal, il est ridicule. C'est lamentable.
Hélas, comme il dit à la fin.
Gilles ?
Moi, j'ai beaucoup aimé Bérénice, mais je ne dis pas que c'est une Bérénice aussi marquante que beaucoup d'autres, comme celle qui avait joué le Mila Michael, le mise en scène de Gruber, mais j'ai trouvé que la tentative de Célipote était très intéressante. Vous ne l'avez pas senti du tout comme moi. Pour parler de Duras, moi, je trouve que le rapprochement est très juste, dans la mesure où Marguerite Duras adorait Bérénice, avait même voulu le monter à la Comédie-Française. Il y a eu des pourparlers entre Jean-Pierre Vincent et elle, pour le monter, elle adorait Bérénice. Et Césarès est hanté par Bérénice.
Mais ça justifie pas de couper un poème.
Il n'est pas du tout mauvais, ce film.
Je trouve qu'il est très beau. Ça justifie pas de casser la musique de Racine et de faire durer 2h30 une pièce qui, normalement,
Mais je suis en train de parler du film, et maintenant je vais parler de la pièce. Non, il me semble que l'objectif de Célipote, moi j'ai pas lu toutes ses déclarations, mais il me semble que sa volonté, c'est d'enlever la solennité, la pompe de la tragédie la rendent plus jeune, plus je dirais même prime sautière. C'est le cas de d'ailleurs de Mélodie Richard dans les premières scènes. C'est une adolescente.
Mais non, elle était pas adolescente
normalement. Moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, c'est vrai que Titus a un vrai problème parce qu'elle le fait jouer comme un militaire qui parle militaire, quoi. Et donc, et ça, c'est.
Un militaire qui parle comme à la
cantine ou à l'office.
C'est quoi un militaire qui parle militaire?
C'est-à-dire, c'est un militaire comme était un militaire chez Michel Audiard. Enfin, c'est un militaire un peu caricatural. Et ça, Titus, c'est un vrai problème. Mais en revanche, je trouve les autres bien. Et puis, les suivants sont vraiment assez drôles. Et,
oui, mais complètement.
Ils ont une drôlerie qui m'a amusé.
On n'est pas chez les.
Non, mais je trouve que c'est un spectacle qui mérite absolument pas vos critiques.
Oh, Gilles, on est sorti
parfait,
en même temps que toi.
Il est loin d'être parfait.
Arrête.
Mais
Jacques et moi, nous sommes sortis en même temps que toi.
Je me souviens pas du tout.
T'as même pris le bus avec Jacques.
Non,
arrête.
Pourtant, on est beaucoup.
Arrête.
Beaucoup
tu as réfléchi
ensemble,
beaucoup. Mais bon. Tu as travaillé
mais
pour trouver des arguments.
En tout cas, je défends.
Je trouve Gilles très courageux. Très courageux de défendre.
Non, parce qu'il va envoyer des pauvres enfants. Se perdre, s'égarer dans le sable.
Les enfants aiment, Arnaud. Je faisais un triomphe.
À moins d'être contraint par leur professeur, je ne les vois pas aller voir cette Bérénice aux ateliers Berthier.
Non, mais la salle était bourrée,
Ça se termine le 10 juin. L'Oiseau Vert, du dramaturge vénitien du XVIIIe siècle, et rival de Goldoni, Carlo Gozzi, traduit par Agathe Mélinan, et c'est Laurent Pelli qui en signe à la fois la mise en scène, la scénographie, les costumes. J'étais étonné d'ailleurs qu'il n'en signe pas la lumière et qu'il ne fasse pas l'ouvreuse. Il avait été créé ce spectacle à Toulouse par lui il y a 3 ans. Et il le reprend au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'en juillet. L'Oiseau Vert, conte totalement délirant, qu'on peut un peu comparer à une commedia dell'arte, mais puissance 10. Retour de guerre après une absence de 18 ans. Le roi Tartaglia, c'est Emmanuel Domas, découvre que sa chère épouse, jouée par Fabienne Rocabois, a été enterrée vivante sous l'évier des cuisines du palais par la méchante reine mère, et c'est l'Argentine, la surréaliste Marilou Marini, et qu'elle aurait fait jeter dans le grand canal leurs jumeaux, un garçon et une fille. Heureusement, ça on peut le dire, sauvés par un couple de charcutiers. Il faut toujours compter avec les charcutiers pour sauver les jumeaux. Quant à l'épouse du roi, même sous l'évier, elle respire encore. Dans cette pièce, créée en 1765, je crois que Jacques d'ailleurs y était, un jeune homme qui va sauver la reine.
Vous m'aviez envoyé, je
et changer en oiseau vert, les statues parlent, les pommes chantent. C'est une sorte de Disney, mais bien avant l'heure. Cet oiseau vert, il faut avoir un peu aussi une âme d'enfant pour l'apprécier. Jacques, vous l'avez goûté?
Ben non, justement. J'ai pas une âme d'enfant, mais je suis sûr que si on emmène les enfants voir ce spectacle, ils vont s'ennuyer beaucoup.
Pourquoi?
Parce que
c'est beau.
L'adaptation d'Agathe Mélinan m'a paru très lourde, sans esprit, rien à voir avec
le merveilleux spectacle.
Mais enfin, quand on se souvient du spectacle jubilatoire de Benoît Besson, on se dit qu'il y a un manque d'esprit là-dedans qui est phénoménal. Marilou Marini, vous parliez d'elle, c'est une actrice que j'admire moi aussi beaucoup. Elle fait la même grimace tout au long du spectacle.
Ah ouais,
et elle ne fait que ça. Mais une seule.
Mais c'est le rôle. Enfin,
elle est
méchante.
Mais oui, mais ça peut être joué avec plus de fantaisie que ça. C'est pas drôle, c'est pas inventif. Oui, le décor est assez joli, cette espèce de grand ruban qui ondule comme ça. Oui, c'est joli, mais joli pendant là encore très longtemps. C'est interminable, 2h30. Et je pense qu'il n'y a pas de véritable féerie. Il y en avait une grâce au décor extraordinaire de Jean-Marc Stellet. Là, c'est un décor figé et beaucoup moins intéressant. Non, c'est pas du tout un bon spectacle. Je me promettais beaucoup. J'avais lu les critiques de mes camarades qui étaient allés le voir à Toulouse. J'ai été affreusement déçu et j'étais content de pas avoir un enfant avec moi parce que je pense qu'il m'aurait grondé beaucoup de lui faire perdre son temps.
Gilles,
un spectacle admirable. C'est la plus belle chose qu'il y a en ce moment à Paris. Enfin, je suis sidéré, là. Je crois que je vais condamner Jacques Nerson et le punir en l'envoyant revoir Bérénice. Quoi. Se tromper à ce point-là, c'est grave, Nerson, c'est grave.
Oui, c'est grave.
Non, parce que c'est d'une beauté plastique et d'une beauté et d'un jeu de comédien magistral à chaque moment. Enfin, c'est très très beau. D'ailleurs, il y a un décor en vague comme ça, une espèce de vague de
sol. Les lumières sont très belles.
Les lumières sont belles. Les gags, les arrivées d'éléments extérieurs comme des cadres qui tombent comme dans un dessin animé. Les acteurs sont épatants. Marine Marigny est hallucinante. Eddie Le Texier est formidable. Enfin, il y a beaucoup de gens formidables.
Hallucinante.
Puis alors, c'est une vraie révélation, ce texte, parce que effectivement, le texte de Benoît Besson était magnifique. Mais on a tendance dans l'histoire du théâtre à sous-estimer Carlo Gozzi, à le considérer comme un fabricant de canevas.
C'est pas mon cas. C'est justement parce que j'ai vu le spectacle de Benoît Besson, comme vous,
que je me suis rendu compte que l'adaptation d'Agathe Bellinan est très bonne, très savoureuse. D'ailleurs, elle est très.
Si j'avais vu que la mise en scène de Laurent Pelli, je ne saurais pas que l'oiseau vert est une très bonne pièce.
Les spectateurs d'aujourd'hui, moi, je l'ai mal fait.
Calmez-vous.
Oui, enfin. Non, c'est un spectacle, on en voudrait voir ça tous les soirs.
Fabienne. Moi, j'ai beaucoup aimé le spectacle aussi, parce qu'il y a une dimension philosophique aussi. Gozzi, il s'en prend...
Il se moque de la philo, plutôt.
Oui, il s'en prend au philosophe des Lumières, à Rousseau, qui défendait, qui fustigeait l'amour propre, lui défend l'amour de soi. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce spectacle, c'est que c'est et dans la pièce, que je connaissais mal, c'est ce savant mélange de philosophie, de sexe, de grotesque, de burlesque, et je trouve qu'il a très très bien rendu ça et moi je trouve que l'adaptation d'Agathe Mélinan est au contraire savoureuse. Elle est parfois truculente, elle est parfois vulgaire, mais elle mélange les tons avec une gourmandise un peu shakespearienne. Les acteurs, ils suivent, ils osent tout, ils sont monstrueux. Ce que fait Marie-Lou Marigny, c'est invraisemblable. Ce que fait Georges Bigot, c'est invraisemblable. Et tout ça dans une alacrité, dans une joliesse.
Et elle fait ça de spectacle en spectacle.
Et ben moi je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Il y a des monstresses de théâtre qui font toujours la même grimace et c'est toujours aussi jouissif. En tout cas, moi, j'ai passé un délicieux moment et j'ai découvert que Gozzi était injustement oublié, parce qu'on parle toujours de Goldoni, parce qu'il a inventé la comédie de mœurs et tout ça, mais Carlo Gozzi, il a inventé la liberté au théâtre.
C'est pas pour rien
que Meyerhold le portera au nu dans les années 1920. Mais si, il a inventé une liberté, parce que les comédiens, justement, à partir des canevas, il pouvait parler d'aujourd'hui, il pouvait parler du présent.
Mais c'est pas lui qui a inventé ça, c'était toute la comédie.
C'est la comédie des arts, mais il l'a défendu contre les autres.
Si, il a inventé une politique.
Il l'a porté au maximum.
Alors, Armel.
Il y a un nom qui a été dit et deux mots qui ont été dits. Fabienne a parlé de Shakespeare et c'est vrai qu'il y a quelque chose de la féerie et de la liberté de Shakespeare dans cet oiseau vert. Et c'est vrai qu'il y a la féerie et il y a le politique, il y a la philosophie, c'est ça qui est très fort. Et en même temps, la manière dont Laurent Pelli le met en scène, je trouve que c'est d'une beauté sidérante. Tout est beau, les costumes sont beaux, les lumières sont belles, les mouvements. C'est du théâtre artisanal, c'est-à-dire qu'il y a des techniciens tout de noir vêtus.
Mais pas toujours, le théâtre, c'est un artisanal.
Vous savez bien qu'on est envahi par la vidéo, les effets et tout ça. Et que là, justement, c'est un merveilleux spectacle parce que...
Je vais me fâcher.
Moi, je sais, quand je l'avais vu à Toulouse, j'avais dit, c'est de la féerie fait main. Et il y a cette jolie chose qui fait qu'on nous renvoie en arrière avec tout ce qui était l'illusion au théâtre.
Il faut avoir une âme d'enfant.
Jacques a raison quand il dit, ça n'est pas pour les tout petits enfants, ne serait-ce que parce que c'est long. Mais un adolescent, il est ravi de voir ça. Et c'est vraiment une des plus belles choses qu'on puisse voir à Paris en ce moment.
Raffiné,
et sans doute le plus beau spectacle qu'on puisse voir actuellement.
L'Oiseau Vert, c'est donc de Gozzi et c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et je crois que ça va durer même jusque fin juillet, c'est ça?
Au moins fin juillet, oui.
Allez, un spectacle où il est question de radio. C'est Les Ondes Magnétiques 2 et mise en scène par David Lescot au Vieux Colombier avec une partie de la troupe du Français, Sylvia Berger. Alexandre Pavlov, Elsa Le Poivre, Christian Eck, le cher Christian Eck, Nazim Boujna, Jennifer Decker, Claire de la Rue du Camp et Johan Gasiorowski, et ça va se jouer jusqu'au 1er juillet. Une pièce que le patron de la Comédie Française, Éric Ruff, a commandée à David Lescot, comme il vient de le faire d'ailleurs avec Lars Norén pour cette pièce qu'on avait vue là cet hiver sur la vieillesse, dont je ne me suis pas vraiment remis. Son thème, l'éclosion des radios libres ou radios pirates au début des années 80. Ça, vous en souvenez, Jacques, de cette période-là?
Très bien, j'ai même participé à des radios libres à l'époque.
Une radio anarchiste?
Non, une radio de
catholique.
C'était une radio de spectacle, fréquence spectacle, je crois que ça s'appelait. Fréquence arrêt spectacle.
Fréquence arrêt spectacle.
Mais oui, on émettait du sous-sol d'une pizzeria, près de Beaubourg.
Sur scène, le studio de Radio Quoi, dont les animateurs s'échinent à tenir sans être brouillés. C'était le grand problème à l'époque, je vous rappelle, avec l'élection de Mitterrand et la loi mettant fin au monopole d'État de la radiodiffusion et autorisant enfin les radios locales sans publicité. Eh bien, la petite Radio Quoi, qui n'est pas retenue, doit fusionner avec Radio Vox, partager les tranches horaires et se tourner vers le côté professionnel. Deux radios, donc l'une tendance anarchiste, l'autre dévolue aux nuits folles, l'une plutôt libertaire, l'autre plutôt dandy, que tout oppose, et dont David Lescot va raconter les débats agités, enflammés. J'ai imaginé, dit-il dans le programme, raconter cette période à travers l'aventure de la radio, comment l'histoire de la France de cette époque et celle du destin des radios libres se superposent, se confondent et s'éclairent mutuellement. Jacques ?
J'ai été très intéressé par ce spectacle, mais je reconnais que c'est aussi en grande partie parce que j'ai vécu cette aventure
jeunesse,
que j'y retrouvais beaucoup de choses.
Dans une pizzeria, oui.
Bon. Mais, par ailleurs, je pense que c'est à la fois une pièce très intéressante, le thème est très intéressant, parce qu'à travers l'histoire des radios libres, David Lescot nous raconte autre chose, c'est l'évolution de la gauche, c'est-à-dire qu'il nous raconte comment la gauche utopiste de 1980, la gauche généreuse, en quelques années, a été forcée de changer, et on est passé de Pierre Mauroy à Fabius, et donc à une gauche qui acceptait la loi du marché.
Mais tout en autorisant la libéralisation des ondes.
En autorisant les radios, mais en même temps en limitant extraordinairement leur nombre et en forçant certaines à des mariages contre nature. La radio dont je faisais partie, on s'est retrouvé marié à Radio Classique de force. Radio Classique n'était pas vraiment ravi.
Ça allait bien ensemble, Radio
Classique. Ils nous aimaient pas du tout. Ils voulaient pas de jactance sur leurs ondes. Enfin bon. Et donc, ils étaient beaucoup plus favorables à la liberté des ondes quand ils n'étaient pas au pouvoir que quand ils l'étaient. Là, ils se sont mis à limiter, ils ont fait disparaître beaucoup de radios. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais enfin, bon, c'est toute l'évolution de la société française qui est racontée à travers ça. Le problème de la pièce de Lescot, c'est qu'il ne fait pas à travers un ou plusieurs personnages, mais il y en a trop, c'est-à-dire qu'on quitte chaque fois les personnages.
Oui, mais c'est l'esprit.
Ce sont presque des sketchs. Une suite de sketchs, et je pense que pour retenir l'attention du spectateur, il faudrait qu'on passe par un personnage. C'est un peu désincarné, ce qu'il raconte. Alors, c'est un spectacle à la fois raté et à la fois passionnant. Et puis les comédiens sont formidables.
Ouais.
Les comédiens de la Comédie Française sont épatants là-dedans.
Fabienne. Alors,
moi, je ne suis pas rentrée du tout dans le spectacle. J'ai relu la pièce en rentrant chez moi, qui, c'est vrai, est une pièce d'agite propre et brillante, élégante, qui raconte des tas de choses, comme l'a très bien dit Jacques sur l'évolution de la gauche.
Mais la pièce elle-même est presque à la limite du reportage, je trouve.
Voilà.
Oui,
normalement. Mais simplement, moi, je n'y rentre pas. Les problématiques ne sont pas incarnées par des êtres vivants. Moi, autant lire un essai sur l'histoire des radios libres. D'ailleurs, tout le programme est consacré à l'histoire des radios libres.
Détaillé, hein.
Très, très détaillé. J'ai beau reconnaître que c'est virtuose, il y a de tout, il y a un mélange, il y a un patchwork, vraiment, c'est comme dans Godzilla,
il y a du rap,
une écriture.
Beaucoup de rap, c'est pas mal.
Il y a Higelin, il y a plein de gens qui sont cités. Les costumes des comédiens sont magnifiques, sauf que c'est très, très ennuyeux. On se raccroche à rien du tout.
Souvent.
Puis alors
beaucoup
là aussi, c'est long.
Armel.
Je comprends les réserves de mes camarades. En même temps, je pense que, sans doute, David Lescot resserrera un petit peu les choses. On l'a vu, comme on a vu le Triomphe de l'amour, le premier soir, première fois qu'ils avaient du public. On ne peut pas s'ennuyer parce qu'ils ont tellement de talent. Ils sont tous tellement extraordinaires. Ils changent tellement vite de personnages et de rôles.
Ben
moi, là où j'étais, je les comprenais. C'est vrai qu'on est en deux... Non, mais c'est en bifrontal, je veux bien croire que... Moi, j'étais au deuxième rang du côté normal.
C'est une question d'audition, mais on comprend pas de quoi ils parlent.
Ben, c'est-à-dire, ils sont toujours en train de fumer, surtout. Ils ont tous la clope au bec.
Oui, mais des fausses cigarettes. Hein.
Oui, ben, bien sûr. La vertu est sauve. Mais non, on prend quand même un plaisir immense à les voir, à les admirer, à se dire, oh, mais elle a encore changé de personnage, c'est elle, c'est Elsa Le Poivre, c'est Jennifer Decker, c'est Christian Eck. Ils sont extraordinaires.
Convenez quand même, Armelle, que ce n'est pas la meilleure pièce de David Lescaut, qui est un auteur de grand talent.
Il fait souvent des pièces comme ça, David Lescaut, c'est-à-dire qu'il se documente énormément.
Moi, je pense que les gens qui n'ont pas connu cette période vont la découvrir, vraiment, je parle de ces radios, vont vraiment la comprendre. C'est pas forcément du grand théâtre, mais je trouve que du point de vue pédagogique et documentaire, si
on comprend tout, et puis il a su merveilleusement se remettre dans l'époque, dans les mentalités. C'est pas seulement les fringues et les téléphones Orange, c'est toute une mentalité post-Baba.
Vous étiez dans une radio pirate, vous, Armelle, à l'époque?
Non, mais j'écoutais volontiers. Et il y a Bizot, là, il y a Eck, à un moment, c'est Bizot, c'est Radio Nova, c'est tout ça. Non, moi, je trouve qu'il y a, c'est très, 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 très riche, c'est merveilleusement documenté, c'est interprété d'une manière époustouflante. Je veux bien croire, comme le disait Jacques, ça tient un petit peu, mais parce que c'est ouvert encore, tout frais, à une suite de numéros, et que ça va se lier. Et je suis sûre que David Lescaut, qui est très intelligent.
Je comprends pas, vous faites toujours de la critique prédictive, Armelle.
On connaît la vie des œuvres, la vie des spectacles, bouge.
Ça peut mal tourner, ça peut bien tourner, on n'en sait rien.
De toute façon, c'est tellement époustouflant, rien que pour le jeu des acteurs, ça vaut le coup.
Gilles.
La soirée est vraiment épatante, c'est un truc... D'abord, il fallait oser parler des radios libres.
Moi, personnellement,
j'étais pas pour les radios libres. Je trouvais qu'il valait peut-être mieux donner des réseaux à France Inter et France Culture. On n'entendait pas toute la France. Enfin, il y avait une époque où ça n'allait pas bien.
Moi, j'entends toujours pas France Culture.
Si, on n'écoutait pas sur la Côte d'Azur, on n'écoutait pas France Inter dans toute la France. Sur la Côte d'Azur, on l'écoutait pas, on l'entendait pas.
Donc, vous étiez partisan du monopole.
Sur ce qu'on appelait les longues ondes, c'était partout.
Si, je vous assure. Ça marchait très mal. Et puis, moi, j'ai quand même assez vite senti que c'était les groupes qui avaient du fric qui allaient prendre ces radios. Donc,
raconte
la pièce aussi.
Vous racontez pas.
Ah oui, ça raconte aussi le désastre des premières années du PS. Finalement. Ouais. C'était l'arrivée de la PS.
Non, mais je trouve que la pièce est très intelligente parce qu'elle raconte, elle raconte l'histoire des radios libres, elle raconte la gauche qui change de politique et qui se convertit à l'économie de marché, et puis elle raconte aussi la population française, c'est-à-dire cette population nocturne comme ça qui change de mœurs, qui a plus honte de ses mœurs, qui vit la nuit, et puis ces gens qui font des petits boulots, qui apparaissent, puis changent de travail. Il y a une population qui est celle d'aujourd'hui d'ailleurs, mais dont on parlait pas, qui est pas celle de 68, qui est celle des années 80.
C'est pas des bobos tout à fait.
Non, c'est pas du tout des bobos. Alors le spectacle,
c'est la drogue, elle est partout dont vous parlez.
Il y a pas le sida.
On voit bien que la France est en train de changer dans ce spectacle. C'est très intéressant, ça, je trouve. Et puis le spectacle est merveilleusement joué. Alors là, c'est à tomber. Ils sont formidables. Ils changent de tenue tout le temps. Et puis vraiment, le dialogue est très, très drôle. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas compris. C'est vraiment toujours clair et drôle. Toujours. En tout cas, pour les gens de notre génération. Peut-être pour les gens qui n'ont pas connu ces années-là. Mais nous qui les avons connus, à commencer par vous, Jacques, qui était dans votre tout seul de restaurant. Je vois que vous avez fait des progrès. C'est vraiment une chose qui nous touche énormément. Puis voilà, je crois que j'ai dit.
Bon, les ondes magnétiques, c'est au Vieux Colombier, c'est deux, et mise en scène par David Lescaut. Et maintenant, vous avez été très long sur tous les spectacles. On va être un peu plus rapide sur les trois derniers, sinon on ne pourra pas les traiter. D'abord, juste La fin du monde, pièce maintes fois montée de Jean-Luc Lagarce, et dont, vous le savez, Xavier Dolan a tiré un film, c'était en 2016, qui lui a valu le Grand Prix au Festival de Cannes. Louis, dans le film, c'était Gaspard Ulliel, est malade. Il revient après une longue absence dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine à sa mère, à sa sœur, son frère, sa belle-sœur. Visite qui, évidemment, fait ressurgir de très vieilles tensions familiales. Et Louis va repartir sans avoir pu dire ce qu'il était venu dire. Au studio Héberto, c'est mise en scène par Jean-Charles Mouveau, qui joue lui-même le rôle de Louis, avec Vanessa Cayol, qui est la sœur, Philippe Calvario, qui est le frère, Gilles Kaplan, la belle-sœur, et Chantal Trichet, la mère. Un spectacle qui a été donné l'été dernier à Avignon et donc qui est à Paris jusqu'au 30 juin. Gilles,
C'est toujours un bonheur de voir Jean-Luc Lagarce. C'est un tel écrivain, tellement formidable. Alors, je ne suis pas absolument enthousiasmé par ce spectacle dont je ne comprends pas tout. La scénographie, elle s'est cabossée, c'est bizarre. En même temps, c'est quand même extrêmement bien fait, bien joué. Ça donne à voir l'écriture de Lagarce qui est très étrange. C'est-à-dire que c'est une écriture où les personnages crachent ce qu'ils ont en eux pendant 10 minutes et puis après ils existent en second rôle. C'est le contraire de la dramaturgie classique où les gens apparaissent et ont des rôles tout le temps. Là, c'est des flashs comme ça qui sont étonnants. Et je trouve les comédiens très bons. Je suis un peu réservé sur le metteur en scène qui joue le double de Lagarce, Jean-Charles Mouveau. Que je trouve qu'il se donne de l'importance, alors qu'en fait, le personnage doit être plutôt en retrait.
Alors, Armelle.
Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Gilles, même sur sa réserve quant à l'interprétation du rôle principal, si j'ose dire.
Fabienne ?
Oui, je suis d'accord avec mes camarades, mais c'est vrai qu'on est content d'entendre Lagarce, cette manière de dire, de ne pas oser parler, puis cette langue qui ratiocine, qui se répète, et sur le désarroi de cette famille qui n'a plus rien à se dire et pourtant tant à se dire. Mais je sauverais quand même l'interprétation de Philippe Calvario que j'ai trouvé dans le rôle du frère qui est jaloux, qui n'en peut plus d'être désespéré, d'aimer, de ne pas être aimé par celui qui est parti, qui n'a plus jamais donné de nouvelles. Je trouve que Calvario est vraiment éblouissant.
C'est sans vrai. Tomber d'ailleurs c'est... dans les outrances que le
c'est
film pouvait,
ouais,
pouvait un tout petit peu parfois de Dolan un peu véhiculer
Jacques. Je suis entièrement d'accord avec Fabienne. J'ai été très, très sensible à ce que fait Philippe Calvario, que j'ai trouvé émouvant. Et en revanche, je n'ai pas ressenti la moindre émotion face à Jean-Charles Mouveau qui me paraît un acteur un peu,
trop vieux
un peu limité.
Oui,
vieux,
c'est ça, il est un peu âgé
peut-être
pour
un
le
moment
rôle.
De charme, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui a fait que l'émotion n'est pas venue. Et si il n'y a pas d'émotion venant du personnage principal, le spectacle est quand même très boiteux.
Surtout dans cette pièce-là de Lagarce, qui est, on le sait, si personnelle. Juste la fin du monde, Lagarce, et c'est au studio, au petit studio. Héberto, La Révolte, une pièce de Villiers de l'Isle-Adam, écrite en 1869, qui fit scandale, Jacques, à sa création, en 1870, parce qu'elle heurtait très violemment l'idéologie de la classe dominante et qui a disparu de l'affiche après 5 représentations seulement. Pièce où une épouse, Elisabeth, 27 ans, annonce à son banquier de mari, Félix, 40 ans, dont d'ailleurs, entre parenthèses, elle a triplé la fortune, qu'elle le quitte et il va mal le vivre, il va même s'en évanouir. L'occasion pour Villiers de vitupérer l'esprit bourgeois de son époque et ses valeurs, l'argent et la famille en tête, une pièce d'ailleurs parfois assez visionnaire. Je pense à ces opérations permises qui enrichissent en une heure, hein, je vous rappelle 1869, qui avait été montée il y a 2 ans au Bouffe du Nord par Marc Paquien avec Anouk Grimbert et Hervé Brio. Et cette fois, c'est au Théâtre de Poche-Montparnasse, dans un décor très dépouillé d'ailleurs. C'est Charles Torchman qui s'y colle avec 2 excellents comédiens, c'est Julie-Marie Parmentier, une rousse en robe noire, qui était la comédienne des Blessures assassines et une ancienne du Français, où elle a fait d'ailleurs peu de temps, hein, c'était, je crois que c'était 2 ou 3 ans, et avec Olivier Cruveillet, spectacle assez bref, hein, 1h20. Fabienne ?
Ah, moi, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux spectacles de cette fin de saison, parce que dans un espace mental très, très cérébral, très épuré, on a l'impression de rentrer dans l'âme de ce personnage qu'interprète Julie-Marie Parmentier, ou bien avant Ibsen, La Maison de Poupée et tout ça.
Neuf ans quand même.
Et ça
a été créé dans le même théâtre, c'est marrant.
C'est beaucoup, c'est drôle. Hein,
mais on assiste à la prise de conscience d'une féministe, une prise de conscience politique aussi, parce que elle refuse l'enrichissement facile, elle refuse de faire exproprier les pauvres, donc elle décide de partir, persuadée qu'elle va pouvoir vivre ses opinions, puis elle revient 3 heures après, et c'est une femme rompue, dont on sent qu'elle a renoncé à tout, mais qui a quand même des vertus d'idéal, un peu comme les héroïnes de Claudel ou de Maeterlinck qu'elle annonce aussi. Donc cette pièce, elle est un peu visionnaire, comme vous le disiez très bien.
Oui, parce que c'est fondé sur des opérations financières, dont on ne pensait pensais pas qu'elles étaient à ce point actuelles.
Exactement, exactement. Puis c'est fondé sur une femme qui fait la fortune de son mari, qui travaille dans l'ombre, et de toutes ces femmes dont on parlait si peu à l'époque, alors qu'elles avaient un rôle fondamental. Julie-Marie Parmentier, eh bien, elle incarne, elle est toute pâle, elle incarne toute la misère, le désespoir de ces femmes et leurs illusions perdues. Elle est magnifique.
Jacques.
J'ai beaucoup aimé le spectacle également, et j'adore la pièce. J'ai une réserve concernant le mari Cruvellier, que je trouve un petit peu trop âgé, et il me semble que ça déplace un petit peu.
Il est dans la pièce.
Il est trop âgé, et il n'est pas dit qu'ils ont une telle différence d'âge.
Dans la vraie pièce, elle a 27 ans et lui 40.
Oui, mais il fait vraiment encore plus vieux, et je trouve qu'on a un peu l'impression d'avoir affaire à Arnolf et Agnès. Je trouve que c'est pas vraiment ce que raconte la pièce. C'est pas s'il y a un manque d'amour, il vient pas de là, il vient du comportement et non pas de l'âge. Et je trouve que ça déplace un petit peu l'enjeu principal de la pièce. Cela dit, c'est un très beau spectacle et elle est merveilleuse.
Armel.
Oui, elle est. Moi, j'aime beaucoup Olivier Cruveillier aussi et je ne le trouve pas du tout. Il est jeune d'ailleurs, cet homme. Oui. Julie-Marie Parmentier, en plus de cette grâce, de cette présence, cette force, la manière dont elle habite cette Élisabeth, elle a une diction absolument extraordinaire, dont on a perdu l'habitude sur les plateaux des théâtres en France, faut bien le dire. Et ça, rien que cela, c'est un plaisir. Elle est mélodieuse, précise, elle est géniale.
Gilles, en quelques mots.
Oui, c'est une très belle mise en scène, un très beau spectacle, qui est un peu construit comme un monologue. C'est-à-dire que Cruvellier est très bien, mais tout est fait pour que Julie Parmentier soit dans la solitude de ce qu'elle dit, pour qu'on ne perde rien de ce message qu'elle nous dit avec une sensibilité extrême. Oui, c'est très beau.
Et donc, c'est La Révolte, et c'est au petit théâtre de poche, Montparnasse. Et on a juste une poignée de minutes, malheureusement, pour parler du Maître et Marguerite. Le roman, vous le savez, protéiforme de Mikhaïl Bulgakov, qu'il a écrit pendant la dictature stalinienne et qui est apparu 25 ans après sa mort, c'était en 1940. Énorme roman que je ne vais pas évidemment résumer, sinon pour rappeler que ça évoque souvent le mythe de Faust. Mac Burnell avait monté dans la cour d'honneur, je ne sais pas si vous en souvenez, en 2012 au Festival d'Avignon. Là, c'est À la tempête, c'est le jeune Igor Menjinsky qui le monte. Ce Maître et Marguerite, avec notamment Esther von den Driesche dans le rôle de Marguerite, Marc Carnot et Adrien Melin en alternance dans le rôle du maître, et enfin Romain Cotard qui joue le diable. Et vous me dites vraiment, mais très rapidement, si vous le conseillez, Gilles.
Ah oui, mais c'est un exploit d'avoir réussi à concentrer ce livre de cette façon-là, et qu'il y a autant d'événements, enfin, un choix d'événements qui est cette clarté-là, cette violence-là, cette force-là sur le drame de deux écrivains et dans la Russie stalinienne, c'est étonnant et joué formidablement.
Armel.
Oui, c'est merveilleux. C'est une adaptation dans laquelle il avoue il n'y a pas toute l'épaisseur du roman. Il y a en particulier des discussions philosophiques et politiques qui sont un peu mise de côté, n'empêche qu'il parvient à tout raconter, c'est merveilleusement joué, simplement, on croit au personnage, on est ému, c'est fait avec rien, c'est du théâtre de très tôt, c'est merveilleux.
Fabienne.
Je suis désolée, je ne l'avais pas noté, j'ai oublié d'aller
le voir.
Vous
l'avez pas noté ?
Non, j'ai honte.
Jacques.
Ben voilà, le plus beau spectacle qui se donne actuellement, c'est Le Maître et Marguerite et la vraie féerie. Ça, c'est de la féerie. Ça n'a rien à voir avec L'Oiseau Vert, pardon. C'est 100 fois plus intelligent comme spectacle. Je parle même pas du roman, qui est un des plus beaux livres jamais écrits. Et c'est merveilleux. On est cloué sur son fauteuil. Ce jeune metteur en scène a trouvé énormément d'astuces pour raconter l'irracontable. C'est formidable. Formidable, et je trouve qu'il n'y a rien de plus poignant que cette histoire de cet écrivain qu'on empêche d'écrire. C'est l'histoire évidemment de Bulgakov. Et il n'y a rien de plus drôle en même temps que l'arrivée du diable dans la Russie stalinienne, dans ce pays rationnel qui se veut rationnel, qui ne l'est pas évidemment, et le diable qui débarque là-dedans et qui flanque un bordel extraordinaire. C'est génial. C'est génial.
Eh bien, Le Maître et Marguerite, vous êtes presque convaincant, Jacques. Le Maître et Marguerite...
Une fois qu'on est d'accord avec Jacques.
De Bulgakov. C'est donc au Théâtre de la Tempête, je ne sais pas jusqu'à quand, j'imagine juillet.
Jusqu'au 10 juin.
À 10 juin.
Et après, ils partent à Avignon. Ils seront au 11 théâtre à Avignon.
Cet été
pendant
à Avignon.
Les 3 semaines.
Avignon, je vous le rappelle, c'est le Festival d'Avignon
festival.
Où nous enregistrerons deux émissions. Festival qui se déroulera du 6 au 24 juillet. Et donc, l'instant est venu des conseils. Et on va commencer avec Fabienne, puisqu'elle a manqué le Bulgakov, mais sans doute qu'elle a d'autres idées.
Deux idées, alors, pour le coup. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, l'arrivée à Paris de L'Avare, mise en scène par Ludovic Lagarde et interprétée par Laurent Poitrenaud, qui est une petite merveille d'intelligence, parce que ça se passe aujourd'hui. Poitrenaud et L'Avare est un financier qui cumule un homme d'affaires au milieu de ses vidéos, de ses objets. Il est très séduisant et en même temps rongé intérieurement. Il est comme d'habitude exceptionnel, Laurent Poitrenaud, et le texte de Molière passe avec une noirceur réjouissante. Et puis j'ai toujours un faible, moi, pour Vincent Macaigne. Vincent Macaigne revient à la colline avec Je suis un pays, qui est une pièce qu'il avait écrite à l'adolescente, un cri plein de fureur et de rage, comme il fait d'habitude, avec plein de fumée, plein de bruit assourdissant, beaucoup de naïveté, beaucoup de candeur, mais beaucoup de violence et d'amour de convaincre avec une troupe ébouriffante. Moi, ça me console, le spectacle de Macaigne.
Console de quoi ?
Ça me console de tout, parce que je vois qu'il y a encore des jeunes comédiens qui ont envie de gueuler, qui ont envie de crier, qui ont envie de vivre, qui ont envie de brûler, qui aiment le théâtre, et c'est bien.
Le conseil de Jacques.
Moi, je conseille la reprise de La Garçonnière dont on avait parlé ici, cette adaptation très talentueuse de la
mise en scène. On avait vu au Théâtre de Paris, dans mon souvenir.
C'est aussi à nouveau au Théâtre de Paris. Il y a une série de représentations, et c'est vraiment un spectacle délicieux. Bon, on connaît le film de Billy Wilder, mais vraiment, c'est difficile d'adapter un film au théâtre, c'est ce qui est fait, c'est très 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 bien fait, on s'amuse beaucoup.
Mon conseil, c'est un petit livre qui paraît aux éditions Actes Sud de Jean-Michel Ribes, le patron du théâtre du Rond-Point, ça s'appelle Cri, écrit. Il y a quelques formules que j'ai bien aimées, c'est cocasse, c'est piquant, et évidemment j'ai beaucoup pensé à vous, ça commence par souvent ce qui me fait rire au théâtre, c'est mon voisin qui ne rit pas. Beaucoup de critiques entrent au théâtre avec l'air d'en sortir, et puis la critique assassine l'auteur, quand il est vivant, dès qu'il est mort, elle le ressuscite. Voilà, tout ça me paraît assez juste.
C'est optimiste.
C'est crise écrite, et c'est Jean-Michel Ribes aux éditions Actes Sud. Le conseil d'Armel.
Alors, c'est un spectacle qui s'appelle Les Petites Reines.
Ah oui.
Adapté d'un roman de Clémentine Beauvais, qui est une jeune auteure.
Mais il est question de, boudin, beaucoup de boudin.
Oui, voilà. Ça parle un petit peu du harcèlement Internet, et donc il y a trois pauvres jeunes filles qui sont stigmatisées,
boudin
et qui
se font traiter boudin d'argent, boudin de bronze,
de boudin par les méchants garçons ou filles par Internet.
Sur les réseaux sociaux. Hein.
Voilà. Et donc elles décident d'oublier tout ça et de partir à bicyclette. Elles vivent à Bourg-en-Bresse. Elles vont partir à Paris et elles veulent aller à la Garden Party du 14 juillet à l'Élysée. Bon, ça c'est le tout petit argument de rien du tout. Mais c'est tellement bien adapté par Rachel Arditi et Justine Heymann. Tellement bien mis en scène par Justine Heymann. Il y a aussi un garçon qui est en chaise roulante, je vous dis pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est une petite comme ça, traversée de la France, cocasse,
et puis c'est
picaresque.
Vraiment pour tout public. Hein.
Alors là, c'est tout public, c'est aussi bien les petits que les vieux comme moi, et vraiment, c'est charmant, c'est extrêmement bien joué par les comédiens, c'est frais, ça se joue au Tristan Bernard, tout l'été.
Et ça avait été un succès au Paris-Villette.
Au Paris-Villette, oui.
Il faut dire la vérité.
J'adore ce spectacle merveilleux de jeunesse. Là aussi, c'est une autre formule. Ce n'est pas Macaigne. Ce n'est pas violent du tout, mais c'est la jeunesse.
Allez-y en famille et même allez-y à vélo. Gilles, d'ailleurs, c'est un spectacle pour vous. Hein. Il est beaucoup question de vélo.
Oui, je vais y aller très vite. Ouais. Mon conseil, vous savez, Jérôme, un des jours où j'ai le plus ri au Masque et la Plume, c'est le jour où Jacques Nerson nous a révélé qu'il avait fait de la danse indienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet aveu.
Mais je crois qu'il en a fait en dessous d'une pizzeria. Je crois. Hein.
C'est possible. Et alors, justement, je voudrais vous parler de danse indienne et recommander à Jacques Nerson et éventuellement, et de préférence d'ailleurs à nos auditeurs, un spectacle qui est relatif à cette danse du Kathakali que j'ai vu d'ailleurs en répétition parce que ça vient juste de commencer. Ça s'appelle le chant du pied, chant, C-H-A-N-T, le chant du pied, donc c'est un texte sur les pieds dans la danse des maîtres indiens et des danseurs indiens. C'est dans l'esprit du Théâtre du Soleil, ça se passe d'ailleurs au Théâtre du Soleil, ça a été écrit par trois comédiennes du Théâtre du Soleil, Nathalie Leboucher, Annie Rumani, Catherine Chauve-Abkarian, mis en scène par le grand Simon Abkarian. Et donc, C'est un abécédaire de la danse qui est en fait du théâtre, puisqu'on raconte des épopées. Mais c'est aussi leur histoire, c'est comment on vit en Inde et comment finalement on finit par regretter quand même de ne pas pouvoir manger le camembert alors qu'il n'y a que du riz à manger.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Pascaud, Armel Hélio, Gilles Costaz et Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir au Charles Trenet à la technique, et je les remercie, Philippe Mercher, Nadège Antonini et Nicolas Depagraf. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le jeudi 7 juin. Je vous attends nombreux à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre au livre. Dans une semaine, on parlera de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.